RFI, 8h30 à Paris, 6h30 en temps universel. Et un nouveau journal avec vous, Arthur Ponchelet.
Et à la une ce matin, une attaque sanglante ce week-end au Nigeria. Une centaine de personnes ont été tuées à Yelewata dans le centre du pays. Des hommes armés ont fait irruption dans le village la nuit dernière et incendié des maisons. Ils sont toujours mobilisés et ne comptent pas en rester là. En Côte d'Ivoire, nouvelle manifestation des militants du PDCI-RDA hier. Ils réclament toujours la réintégration de leur chef Tidjane Thiam à la liste électorale. Dans ce journal aussi, l'économie malienne montre une certaine résilience d'après le FMI. Notre dossier, ce matin, nous emmène au Cameroun à la découverte de projections itinérantes de films Made in Africa. Et puis, c'était une figure de la lutte contre la corruption en RDC. Floribert Boanachoui va être béatifié aujourd'hui par le Vatican. On vous explique tout à la fin du journal. Les témoins racontent une attaque d'une violence particulière. L'horreur frappe à nouveau le centre du Nigeria. Dans la nuit de vendredi à samedi, le village de Yelewata, dans l'état de Benue, a été pris d'assaut par des hommes armés. Une attaque sanglante qui a fait plusieurs dizaines de victimes. Clotilde Hazard, les assaillants ont tiré à l'arme à feu et incendié plusieurs maisons.
L'attaque a été menée de façon coordonnée. Trois groupes ont encerclé le village par différents accès, tirant en rafale et semant la panique. Selon des témoins, les assaillants ont ciblé des maisons et des boutiques où des habitants dormaient encore. Du carburant aurait été versé sur certaines portes avant d'y mettre le feu. Des familles entières ont été piégées dans les flammes. D'autres victimes ont été abattues en tentant de fuir. Parmi elles, beaucoup de personnes déplacées des villages alentours, réfugiées à Yelewata justement en raison de la recrudescence des violences ces derniers mois dans la région. Le porte-parole du gouverneur de Benue confirme la mort de 45 personnes, mais sur place, des habitants évoquent un bilan bien plus lourd, jusqu'à 100 morts. Cette attaque s'inscrit dans une spirale de violence entre éleveurs peuls et agriculteurs sédentaires dans la ceinture centrale du pays. Les tensions se cristallisent autour de la question du contrôle des terres et de l'accès aux ressources naturelles de plus en plus limitées sous l'effet du changement climatique et de l'expansion démographique. Selon Amnesty International, plus de 6800 personnes ont été tuées dans l'état de Benue au cours de ces deux dernières années. Il y a deux semaines, à peine 25 personnes y avaient déjà été tuées dans une attaque similaire.
Et notez que la police est toujours à la poursuite des assaillants, c'est ce qu'indique le porte-parole des forces de l'ordre locales dans un communiqué. En Côte d'Ivoire, c'est un accident qui a fait de nombreuses victimes hier. Au moins 16 personnes sont mortes dans la collision entre un camion et un minibus Massa. Ça s'est passé sur l'autoroute entre Agboville et Abidjan. L'actualité en Côte d'Ivoire, elle est aussi et toujours politique. Avec une marche hier de plusieurs milliers de sympathisants du PDCI-RDA, ils se sont réunis dans le centre-ville de Cocody pour réclamer une nouvelle fois la réintégration de leur chef, Tidjane Thiam, sur la liste électorale. Il en a été radié en avril après une décision de justice, ce qui le rend inéligible pour le scrutin présidentiel d'octobre. Et ça ne passe toujours pas auprès des militants. Reportage Minta Diagne.
À travers cette marche, les militants du PDCI veulent exprimer leur défiance vis-à-vis du processus électoral, mais aussi leur colère de voir leur leader Tidjane Thiam radié de la liste électorale. Estimant que sa sécurité n'est pas garantie, ce dernier mène son combat depuis l'étranger, depuis déjà près de 3 mois. Sur le terrain, ses partisans ont remis une lettre à la commission électorale indépendante, exigeant sa réintégration dans la course. Sylvestre Emou, le secrétaire exécutif du PDCI-RDA.
Nous dénonçons avec force la radiation arbitraire et injustifiée du président Tidjane Thiam, ainsi que des autres leaders majeurs de l'opposition. Nous considérons ces radiations et ou non inscriptions sur la liste électorale comme des manœuvres dolosives pour éliminer des adversaires politiques importants de notre pays au moyen d'artifices juridiques inopérants.
Le PDCI-RDA réclame une fois de plus une nouvelle révision de la liste électorale avant l'élection du mois d'octobre et un dialogue politique. Une démarche que dénonce le parti au pouvoir. Cette semaine, lors d'une conférence de presse, le RHDP a pointé du doigt des manœuvres dilatoires. L'objectif de l'opposition n'est pas d'aller aux élections, affirme Kobeno Kwasi Adjoumani, le porte-parole du RHDP. Selon lui, l'opposition mise sur la non-tenue du scrutin présidentielle dans les délais constitutionnels pour, je cite, réclamer une transition en renvoyant les élections au calendrier grec. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
L'actualité au Mali et ce retour précaire au calme dans le nord. Vendredi, les affrontements ont éclaté entre les rebelles du FLA et l'armée malienne, appuyée par ses alliés d'Africa Corps. Le Front de Libération de l'Azawad affirme avoir abattu un avion de la coalition qui, elle, parle plutôt d'un accident lié à la météo. On y revient dans le journal de 7h30 dans une universel. Le Mali, c'est aussi cette bonne nouvelle côté économique. Le Fonds monétaire international vient d'achever une mission de consultation dans le pays et l'organisation observe une certaine résilience de l'économie malienne. Elle prévoit même une croissance de 5% cette année. Un soulagement dans le pays, Claire Fage, après une année 2024 difficile.
L'an dernier, le Mali a subi des inondations, une crise de l'électricité et une baisse de la production d'or. Malgré ces difficultés qui se sont ajoutées à la crise sécuritaire, l'économie malienne a fait preuve d'une certaine résilience, salue le FMI. La situation budgétaire s'est améliorée l'an dernier grâce aux paiements exceptionnels des opérateurs miniers et télécoms et à la maîtrise des dépenses courantes. L'État devra certes dépenser plus cette année pour atténuer les répercussions des inondations, mais le FMI anticipe une croissance de 5% en 2025, plus forte qu'en 2024, malgré la fermeture de la plus grande mine d'or du pays qui était opérée par le Canadien Barrick. Si toutes les activités minières reprennent, anticipe le bailleur international, la croissance pourrait atteindre 5,4% en 2026. Le Mali, soumis à des coûts d'emprunt élevés, devra cependant s'imposer quelques priorités, juge le FMI, améliorer la gestion budgétaire, élargir l'assiette fiscale, réduire l'incertitude de politique intérieur et soigner les entreprises publiques vulnérables, au premier rang desquelles la société d'électricité du Mali.
On vient de l'entendre, les inondations ont eu des répercussions économiques au Mali. C'est aussi le cas à Kinshasa et à Brazzaville où les dégâts sont impressionnants. Après des pluies diluviennes dans la nuit de vendredi à samedi, elles ont fait au moins 19 morts. À Brazzaville, c'est la stupeur qui domine après ces intempéries qui surviennent en pleine saison sèche. Reportage Loïcia Martial.
Nous sommes à Massingo, quartier nord de Brazzaville. L'avenue non bitumée est sans dessus-dessous. Sur une partie, les conduites d'eau sont à ciel ouvert. Les torrents d'eau tombés sur la ville ont emporté la terre qui les recouvrait. Plus loin, un ruisseau est sorti de son allumée. Des jeunes transportent des piétons sur leur dos, potentiellement 150 francs. D'autres utilisent une pirogue.
On est surpris, il y avait la pluie. Subitement ce matin-là, vraiment ici-là, c'est l'embuscade. Parce qu'avec l'eau, quand ça revient comme ça, avec le goudron, ça marche pas.
Quitter sa maison pour gagner un autre coin de la ville n'a pas été chose facile.
On s'est égaré à Mikalou, là, la voie telle que vous voyez ici. Là. Il y a inondation, on ne peut pas se déplacer et tout.
Le sable, drainé par les eaux, a envahi une bonne partie du terminus de Mikalou, toujours au nord. Les habitations n'ont pas été épargnées.
Comme chez moi, là-bas, la nuit, c'était vraiment le calvaire. Les voisins sont venus là, oh non, sors. Je suis resté dans la maison. Parce qu'avec les tonnerres, là, je ne pouvais pas sortir. Parce que j'avais peur.
La pluie, en pleine saison sèche, une surprise pour plus d'un Brazzavillois. Beaucoup y voient la manifestation de changement climatique. Loïcia Martial, Brazzaville, RFI.
Et le bilan encore provisoire fait état d'au moins 3 morts à Brazzaville. La pluie manque en revanche au Maroc, qui fait face à sa 7e année de sécheresse. Pour y faire face, le Royaume annonce la construction de 9 usines de dessalement supplémentaires. Objectif soutenir le secteur agricole, mais cette technologie est particulièrement polluante. Il est 6h38 en temps universel. Notre dossier ce matin est consacré au cinéma. Vous le savez, sur le continent, l'un des obstacles à la diffusion massive des films reste le manque de salles. Pourtant, le cinéma africain est particulièrement prolifique. Ses réalisateurs sont présents dans de nombreux festivals internationaux et remportent des prix. Alors comment amener le cinéma vers le public et inversement? Cette semaine, à Douala, au Cameroun, plusieurs organisations proposaient des diffusions gratuites et itinérantes dans les villes et les villages. Notamment à Diomombari, près de Douala. Reportage Polycarpe Samba.
Sur l'esplanade de la commune de Diomombari, sous un grand arbre et en plein air, un peu plus d'une cinquantaine de personnes ont pris place. Elles sont de tout âge, de tout genre et dans un instant, elles vont vivre pour la plupart la première projection cinéma de leur vie. Et lorsqu'arrivent les premières images sur l'écran géant après quelques essais, c'est l'émerveillement.
Pour moi, c'est énorme. J'ai 27 ans et je n'ai jamais été dans une salle de cinéma. Bien sûr, j'en ai déjà vu à la télé ou dans des vidéoclubs, mais là, clairement, ça n'a rien à voir.
Randy Guin, influenceur franco-camerounais, accompagne les organisateurs dans ces diffusions itinérantes. Et pour lui, l'idée est merveilleuse.
Je suis très content d'être là, de voir l'engouement que le cinéma africain et aussi notre héritage provoque, de rassembler toutes ces personnes ici à Diomombari.
Rapprocher le cinéma africain de son public, tout le sens de la bataille de Stéphanie Ndokmo, cette ancienne journaliste à la tête de l'antenne Cameroun du réseau panafricain CNA, le cinéma numérique africain.
Nous apportons le cinéma d'Afrique aux populations africaines. Le but but étant de pouvoir faire vivre et revivre ces films-là auprès de leur public, parce que ce sont des films qui sont faits pour nous, par nous, des films pour nous.
Outre Dibombari, localité située à quelques kilomètres de Douala, les films sélectionnés pour ainsi être projetés en plein air ont été diffusés à Boko, un quartier défavorisé de Douala, mais aussi sur les plages de sable fin de la ville de Kribi, au sud du pays. Polycarpe Somba à Douala, RFI.
Alors justement, comment promouvoir le cinéma africain en Afrique, mais aussi à travers le monde? C'est l'objectif que s'est fixé la Cinémathèque Afrique à l'Institut français. Elle a sauvegardé 1800 films du continent des années 50 à nos jours et travaille à les promouvoir un peu partout. Aïssa Diaby en est la chef de projet.
Nous avons de nouvelles ambitions pour cette Cinémathèque Afrique et du coup on a plusieurs missions. Tout d'abord de préserver les films. Il faut savoir qu'on a plusieurs films qui datent des années 60, 70, 90 qui sont parfois sur des supports comme des bobines, donc qui sont très vite dégradables, et aujourd'hui il est urgent de pouvoir préserver ces films-là en les restaurant et en numérisant. Deuxièmement, c'est une fois que ces films sont préservés, ils sont restaurés, ils sont faits pour être vus, donc notre objectif c'est aussi de les rendre accessibles à un large public et c'est également de les diffuser. On a sélectionné le Cameroun pour travailler aussi avec l'Afrique centrale parce qu'on a plusieurs activités qu'on a fait en Afrique de l'Ouest. On s'est dit ce serait bien de travailler aussi avec l'Afrique centrale et c'est comme ça qu'on a choisi le Cameroun, c'était par rapport aux partenaires locaux qu'on a trouvé assez solide. Et puis c'est important d'amener le cinéma là où les gens n'en ont pas accès, et donc c'est ce qu'on souhaitait faire aussi, de démocratiser le cinéma africain, de le promouvoir à tous, à un public large et diversifié.
Propos recueillis par notre correspondant au Cameroun, Polycarpe Somba, qui signe ce dossier, à retrouver aussi sur RFI.fr. Il avait refusé de laisser entrer des vivres avariés en RDC et depuis, il est devenu une figure de la lutte contre la corruption. Floribert Boana Tchoui, assassiné en 2007 à l'âge de 26 ans, va être béatifié aujourd'hui. Figure charismatique de Goma, ce contrôleur des douanes était très impliqué auprès des pauvres de sa ville. Et Eric Sénon, donc, il va être déclaré bienheureux aujourd'hui par l'Église catholique à Rome.
La béatification de Floribert Boana Tchoui est un moment très attendu pour de nombreux Congolais, en particulier dans la ville de Goma. Aline Minani était une amie du jeune contrôleur des douanes. Elle est responsable de la communauté catholique Saint-Egidio à Goma, dont faisait partie Floribert et au sein de laquelle celui-ci s'occupait des enfants des rues.
Nous nous sommes préparés à vivre ces moments avec beaucoup d'émotions, beaucoup de joie et de reconnaissance envers Dieu pour les dons de la vie de Floribert dans notre communauté de Saint-Egidio à Goma et partout dans le monde.
Et derrière la figure de Floribert, cette béatification est vue par beaucoup comme une invitation à lutter contre la corruption. En janvier 2023, le pape François l'avait d'ailleurs érigé en modèle en rencontrant la jeunesse congolaise à Kinshasa. Un message toujours actuel en RDC pour Aline Minani.
Il a lutté à main nue contre la corruption et aujourd'hui pour toute la jeunesse congolaise, je pense que c'est une invitation. C'est possible de vivre, garder sa liberté même devant l'argent. Nous voyons combien de fois il y a le fléau de la corruption qui regorge nos institutions et je pense que Floribert c'est un modèle. Et aujourd'hui dans ce climat qui règne dans notre pays, c'est le moment de prendre conscience qu'il faut changer, qu'il faut suivre, emboîter les pas de Floribert Boana Tchoui.
Pour des raisons sécuritaires, la messe de béatification ne peut se tenir à Goma, mais de nombreux Congolais ont fait le voyage à Rome, à commencer par Mgr Winnie Ngumbi, l'évêque de la capitale du Nord Kivu, et le cardinal Fridolin Mbongo, l'archevêque de Kinshasa. Eric Sénanque, Rome, RFI.
Un mot de sport avant de refermer ce journal et ce match nul en ouverture de la Coupe du Monde des clubs, 0-0 entre l'Al Ahly du Caire et l'Inter de Miami dans un Hard Rock Stadium finalement à plein à craquer ce soir. PSG Atlético Madrid à partir de 19h temps universel. L'actualité sportive c'est aussi du basket et la victoire de l'Al Ahly Tripoli en finale de la Basketball Africa League. Le journal des sports c'est avec Saliou Diouf dans une heure.
Merci Arthur Poncelet, à tout à l'heure.